L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Tout à l'heure, notre World Tour, French Tech Tour, comme d'habitude. La rédaction de 01net.com aussi qui arrivera tout à l'heure. Mais auparavant, je vous propose de retrouver notre passion selon Sanet et d'évoquer alors un sujet qui fait polémique quand même, ma chère Lila, puisqu'on va parler de l'obsolescence programmée.
Tout à fait. Tout à fait. Donc l'obsolescence programmée qui consiste plus ou moins de la part des éditeurs d'ordinateurs, des constructeurs d'ordinateurs, de programmer
la mort
de nos appareils. Alors nous avons le plaisir d'avoir en studio deux spécialistes du sujet. Alexandre Morin, bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Alexandre Morin, vous êtes cofondateur de la start-up M-Carré, que vous avez fondée avec deux autres associés. Et on a également le plaisir d'avoir en studio Émile Meunier. Bonjour.
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 Alors, Émile Meunier, vous êtes cofondateur de l'association HOP. Alors,
Halte à l'obsolescence programmée.
Tout à fait, tout à fait.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore.
D'accord, HOP, et oui, bien sûr, puisque Halte, il y a un H, je tiens quand même à vous le rappeler.
Alors dites-nous un peu aujourd'hui quelle est la réalité concernant l'obsolescence programmée. Est-ce que aujourd'hui c'est un délit?
Alors
Émile Meunier.
Oui, c'est un délit. Ça a été voté dans la loi transition énergétique. C'est à l'article L213-4-1 du code de la consommation.
Très précis.
Pour ceux qui veulent aller voir.
Bah oui, si on veut le relire.
Toujours intéressant. Les constructeurs aussi d'ailleurs devraient le relire. Et ça existe, il faut reconnaître que c'est Ségolène Royal qui, au moment des débats, sur une proposition des députés écologistes, a poussé la proposition, alors pourtant que c'était pas dans le projet de loi initial.
Mais est-ce que c'est pas un peu un sujet tarte à la crème, ça, quand même, l'obsolescence programmée? Parce que bon, alors évidemment, les politiques s'emparent de ce truc-là parce que c'est un peu un sujet dans le vent. Il faut défendre nous, les consommateurs, etc. Mais est-ce que vous pensez vraiment que les constructeurs de produits high-tech prépare en fait la panne ou l'arrêt inopiné d'un appareil qu'on achète aujourd'hui?
Oui, je le pense. Il y a l'exemple de l'informatique, mais que je vais laisser
Alexandre.
Oui, parce qu'il n'y a pas que l'informatique, j'imagine.
J'ai un autre exemple.
Ça peut être la machine à laver.
Par hasard, il y a 2-3 jours, je faisais une petite revue de presse sur ordi, sur l'obsolescence programmée. Il se trouve par exemple.
Ordi qui marche encore d'ailleurs.
Qui marche encore, je ne donnerai pas la marque.
D'accord.
Au pire, je pourrais le faire réparer chez mon voisin.
Ouais.
Non, mais plus sérieusement, il y a le cas par exemple de la Epson 9900, qui est une grosse imprimante pour les designers, les urbanistes. Il y a un petit laboratoire qui a fait des tests et on peut le voir sur YouTube, taper Epson 9900 obsolescence programmée. Et en réalité, alors que la machine arrête de marcher, soi-disant parce qu'il n'y a plus d'encre, ils prennent les cartouches, ils les vident et ils se rendent compte que c'est rempli encore à un quart. Alors, très sincèrement, il n'y a pas d'autre explication rationnelle que la volonté de renouveler plus les cartouches.
Dans ce cas précis, c'est pas l'imprimante qui tombe en panne, c'est qu'elle nous dit simplement qu'il faut changer les cartouches.
Exactement.
On est d'accord. Donc si on change les cartouches, l'imprimante continue de fonctionner.
Exactement.
Donc là, oui, il pousse le bouchon un peu trop loin en nous disant, il nous pousse à la consommation de l'encre. C'est ça.
Oui, il nous pousse à la consommation de l'encre. Et là, on voit qu'on arrive au cœur de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'est un problème et pour les consommateurs, puisque c'est un coût de renouvellement, et pour l'environnement. Parce qu'imaginez à l'échelle de la planète, sur chaque objet sujet à l'obsolescence programmée, ce que ça peut représenter comme économie.
Mais c'est étonnant parce que Epson, alors je fais un petit aparté, vient de sortir une imprimante justement sans cartouches pour combattre le fait de changer les cartouches régulièrement.
Eh ben tant mieux, ils ont peut-être changé d'ingénieur.
Mais c'est étonnant, mais voilà.
Et du coup, je vais me permettre de répondre sur le numérique parce que nous, on est complètement parti du constat que les ordinateurs, les tablettes et les smartphones meurent prématurément. Et on connaît tous, on a tous des histoires d'ordinateurs notamment qui tombent en panne au bout de quelques mois, voire quelques jours, voire le lendemain de la fin de la garantie. Donc ça commence, ça en fait un peu beaucoup. Et très clairement, quand nous on travaille donc sur la remise à neuf des ordinateurs, on arrive à prolonger leur durée de vie. Et c'est simple, on la double. Donc,
mais comment un constructeur peut programmer la mort d'un appareil?
Alors sur le numérique, sur les ordinateurs, tablettes et smartphones, pas précisément, parce que c'est notre métier, notre expertise chez M-Carré, on a remarqué qu'elle est systémique. il n'y a pas un composant qui va défaillir particulièrement. Alors évidemment, sur chaque modèle, sur chaque marque, on va trouver des choses qui sont un petit peu récurrentes, l'alimentation, la ventilation, mais elle est surtout aussi logicielle, donc immatérielle. Et c'est là-dessus qu'on va travailler en premier pour redonner une deuxième jeunesse aux ordinateurs qu'on a entre les mains.
Donc ça veut dire en gros que pour l'appareil, vous allez réparer les objets.
Alors en fait, pas tout à fait. Pour vous donner une idée, quand on a un ordinateur entre les mains, 60 à 70% du temps, on va travailler uniquement sur la couche logicielle. Donc il n'y a pas de réparation. Nous, on va vraiment parler de remise à neuf. C'est-à-dire qu'on va prendre l'ordinateur et on va le remettre à neuf, comme il était à l'état d'origine.
Mais voire au niveau des fois logiciel mieux.
Au niveau logiciel, dans 60 à 70% des cas, dans 20 à 30% des, enfin, ouais, on va dire 20% des autres cas, on va faire de la réparation. Donc, ça va être des petites choses, de l'alimentation, ça va être de la carte mère oxydée, ça va être des petites choses comme ça matérielles. Et dans le reste des cas, on va, suivant les besoins des utilisateurs, on va même augmenter, upgrader l'appareil.
Parce que quand c'est, par exemple, du logiciel, admettons, hein, je prends Windows sur un PC. Finalement, l'obsolescence programmée, elle vient pas du constructeur, mais elle vient de l'éditeur de logiciel qui, voilà, au bout d'un moment, le logiciel rencontre un problème avec le PC.
Alors, c'est vrai. Il y a par exemple, chez Windows, on l'appelle le syndrome cuvette chez Windows. Donc, à force d'utilisation, l'ordinateur
se remplit. Ça va leur faire plaisir, ça.
Et une fois que c'est plein, ça
déborde.
C'est lent, on peut plus faire grand chose et
surtout quand on installe plein de cochonneries dessus et que ça marche plus.
Oui, et en fait, même dès qu'on achète un ordinateur, il y a souvent, donc, sur les entrées de gamme, entre 200 et 600 euros, on va dire, pour être vraiment précis, il y a déjà une couche logicielle qui est abondante et qui
ralentit la machine.
Qui devrait pas être là, en fait. Qui devrait pas être là.
Alors, oui, pardon, juste pour rebondir, ce qu'on s'est un peu parlé avant, c'est vrai qu'il faut distinguer deux choses parce qu'on peut pas non plus tout mettre sous le vocable obsolescence programmée. Il y a, par exemple, des biens qui sont pas chers. On sait qu'ils sont pas chers parce qu'ils sont fragiles, les composants choisis sont moins solides. Et donc, évidemment, au bout de 3 ans, quand on achète un ordinateur à 300 euros, on a 900 sur 10 pour qu'il tombe en panne. Est-ce que c'est de l'obsolescence programmée ou pas? C'est difficile à dire parce qu'il y a quand même une notion de prix.
Voilà. Il y a peut-être des composants qui sont peut-être de moins bonne qualité.
Là, ça pourrait s'expliquer. On offre un choix au consommateur.
Oui.
Pourquoi pas? En revanche, il y a des cas, très concrets où on voit que le logiciel, au bout d'un moment, clac, il se lock, on sait pas trop pourquoi, la machine commence à dérailler, et il n'y a pas de raison autre que imaginer, alors sans qu'on
donc
soit dans la tête.
Donc c'est quelqu'un qui a voulu que ce logiciel se bloque au bout d'un moment, à
alors,
votre avis?
Alors, après, c'est toujours difficile de le démontrer. Et d'ailleurs, sur le délit d'obsolescence programmée, lors des débats, et puis après les constructeurs, souvent, on raillait un peu le délit en disant « Ah, mais c'est improuvable, c'est improuvable ». Moi, je dis que c'est prouvable. Déjà, au sein de l'entreprise, l'ingénieur qui aura reçu la consigne de son chef de service de choisir tel ou tel composant réputé moins fragile à coût égal, il faudra qu'il se méfie avant de donner une instruction écrite. Donc ce délit peut être prouvé et il y a certainement des cas. Après, il faut pas non plus basculer dans la parano et chez nous à Hop, on n'est pas là pour dire tous les constructeurs sont des méchants. Attention,
parce que ça
il y a
peut
des
leur...
constructeurs
ça,
qui sont
ça peut être à double tranchant pour eux aussi Lila, c'est-à-dire qu'on peut très bien se dire que je sais pas moi, je prends une grande marque de PC ou de téléphone portable, si ils rentrent dans cette logique d'obsolescence programmée, on va pas être content d'avoir acheté ce produit-là et on va en acheter un autre. D'une autre marque, parce que
sauf si l'autre marque fait pareil, c'est toujours ça le problème.
Ouais, mais bon, pendant ce temps-là, on va plus acheter du Samsung parce
que je suis d'accord. Alors pour ça,
je cite Samsung, alors que bon, on a rien contre eux.
Pour ça, on a chez Alta l'obsolescence programmée, on défend ce qu'on appelle l'affichage environnemental. C'est sur l'étiquette avoir certaines informations pour que les constructeurs vertueux privilégié face à l'acte d'achat du consommateur. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'il y a des pièces détachées? Oui ou non. Autre exemple, la durée de vie du produit. Autre exemple, le temps moyen entre les pannes. Ce genre d'information peut permettre au consommateur de faire son choix de façon plus éclairée et donc de devenir un consomme-acteur. Et on insiste beaucoup sur l'intelligence du consommateur chez Hop. Mais c'est pas encore tout à fait le cas. Hein.
Je voudrais juste rajouter une petite chose là-dessus. Effectivement, il y a des différentes politiques chez les constructeurs. Je parlais de Windows tout à l'heure, mais on pourrait parler d'Apple, on pourrait parler de Samsung, on pourrait parler de tous. Ils ont tous des particularités. Il y a quelque chose quand même dont il faut avoir conscience, c'est que quand on achète un appareil qui est relativement bas de gamme, donc pour les ordinateurs entre ce que je disais tout à l'heure entre 200 et 600 euros, il tiendra pas 5 ans. Ça, c'est une réalité, c'est ce qu'on constate. Derrière, nous, on est obligé de faire, on est obligé pas simplement de repasser sur la couche logicielle. Chez M-Carré, on repasse aussi sur la couche matérielle. On n'a pas le choix parce que les composants sont un peu limites, parce que il y a des blocages électroniques, parce qu'il y a des problèmes de compatibilité, etc. Donc,
c'est comme tout. Si j'achète une machine à laver à 200 €, j'aurai peut-être plus de problèmes qu'avec une machine à 400 parce que c'est une machine donc avec des composants peut-être low cost. Mais bon, là, on part du principe qu'on achète quelque chose de pas cher. Et on assume les conséquences après la garantie, on va dire.
Tout à fait. Ah, mais
là-dessus, ça, c'est pas de l'obsolescence programmée.
Non.
D'accord.
Non, c'est pas du tout ce qu'on dit. L'obsolescence programmée, c'est quand il y a vraiment eu intentionnellement, toutes choses étant égales par ailleurs, la volonté de diminuer la durée de vie du produit pour augmenter la fréquence d'achat.
Est-ce que tout appareil est sauvable? Je vous vois hocher de la tête, Alexandre Morin.
Oui, parce qu'en fait, le constat qu'on fait chez M-Carré, c'est que on arrive à avoir des durées de vie supérieures à 5 ans sur les ordinateurs, à peu près quels qu'ils soient, en termes de même, enfin, de 500 à 1 500 € à l'achat. Et je me dis pourquoi nous, qui prenons soin, qui allons travailler sur à la fois le matériel, le logiciel en termes d'écosystème, pourquoi nous on arrive à faire quelque chose qui tient vraiment longtemps, et que les constructeurs à côté n'arrivent pas à de telles durées de vie. Donc c'est un petit peu c'est juste une question que je me pose. J'accuse personne, mais voilà, la réalité c'est qu'on peut quand même faire des choses très bien à des prix défiant toute concurrence. Et donc oui, pour vous répondre, tout matériel est sauvable. Après, ça dépend aussi du coût. Et chez M-Carré, on a une politique, c'est de dire qu'à partir du moment où le coût est supérieur au prix de la machine, on ne le réalise pas.
Oui, merci beaucoup. Acheter un autre, à ce moment-là, c'est sûr.
C'est ça.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous.
Sujet passionnant.
Merci. Est-ce que j'ai un dernier mot à
Allez-y,
dire?
Allez-y, le dernier.
Je dis que c'est avant tout aussi, la lutte contre l'obsolescence programmée, une belle opportunité pour changer de modèle de consommation, parce que derrière, c'est moins de consommation, c'est un meilleur environnement, c'est des consommateurs satisfaits, c'est du business, notamment de la réparation, qui fonctionne, c'est des emplois non délocalisables, et n'ayons pas peur des mots, nous pouvons aller vers une sobriété heureuse.
Voilà, et puis après, on n'a pas évoqué le problème du recyclage, qui est un tout autre débat qu'on évoquera peut-être un de ces jours. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci.
Lila, on revient dans un instant pour la suite de cet atelier numérique, bien évidemment sur BFM Business. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Dans quelques minutes, ce sera la rédaction de zeronet.com, comme chaque samedi. Et puis ensuite, le crash test d'Antoine. Mais auparavant, avant tout cela, dans quelques instants, notre French Tech Tour, on va parler de Finovate. Quelle place pour les fintechs, justement, les fintechs françaises dans l'écosystème londonien. Mais auparavant, notre World Tour, direction l'Afrique, Aurore Géraud, pour nous intéresser à la classe moyenne grandissante en Afrique, qui, évidemment, a son rôle à jouer dans les nouvelles technos.
Oui, et avec nous, pour en parler, Grégory Pepper, qui est donc Regional Manager à SeedStars World. Grégory, bonjour.
Bonjour.
Donc, on a souvent eu l'habitude de parler, quand on parlait de l'Afrique, de parler mobile principalement. Aujourd'hui, on va voir qu'il y a le développement du e-commerce, de la livraison, de la logistique est en pleine ébullition. Et ça, c'est lié aussi à la classe moyenne grandissante. En tout cas, c'est ce que vous analysez, Grégory.
Alors oui, tout à fait. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, on parle souvent de tout ce qui est mobile. Mais souvent du téléphone mobile un peu plus simple. Et ce qu'on voit aussi, c'est en effet la croissance du téléphone, des smartphones. Et avec cela, on voit bien sûr tout ce qui est livraison, tout ce qui est commande et tout ce qui est transport aussi, sur demande, à service, à la Uber comme on a ici en Europe. Et avec cela, on en voit vraiment de toutes les sortes. On voit des géants sur le continent qui maintenant se développent comme Jumia ou en Kaimu qui eux font des modèles de e-commerce soit simples en quelque sorte à la Amazon, où l'on choisit son produit, mais qui peut être construit aussi par Amazon lui-même, ou bien des marketplaces comme eBay. Et on voit vraiment que ces géants-là ont un impact énorme. Non seulement ils lèvent des sommes colossales, on parlait il y a l'année passée de 140 millions, si je ne me trompe pas, avec Jumia, et on a encore aussi des services, comme vous le disiez, où on livre, par exemple, de la nourriture sur le continent, on a des services qui sont présents dans 18 pays, par scooter et autres. Donc vraiment cette effervescence aussi de tout ce qui est classe moyenne, des services de livraison, de consommation, et qui ne sont pas forcément les choses qu'on s'attendrait normalement.
Et concrètement, on voit donc, vous dites des investissements records. Est-ce qu'on voit un nombre de start-up qui augmente?
Alors oui, ça aussi, c'est vrai qu'on voit non seulement des services, comme je disais, de déplacement ou de déplacement à la demande, de transport à la demande, qui se déclinent dans différentes sortes. On aura les transports, entre guillemets, habituels en voiture. On aura encore, par exemple, ce qui est très très commun sur le continent, c'est les déplacements soit en minibus, ou soit en moto. Et là aussi, on trouvera des services où on peut, soit avec son smartphone, soit par appel, commander directement des déplacements avec ces transports-là. Aussi, dans tout ce qui est e-commerce, qu'on a beaucoup, beaucoup vu sur le continent, c'est tout ce qui est fashion, tout ce qui est mode africaine. Mm-hmm. Et donc ça aussi, encore une fois, on voit de nombreuses startups qui apparaissent des quatre coins du continent et qui veulent eux aussi commencer à vendre en ligne des produits qui sont faits en Afrique.
Donc même si c'est un domaine en plein boom, je suppose qu'il reste quand même des difficultés. Je pense notamment la livraison. Enfin, en Afrique, on reste quand même sur des basiques.
Alors c'est juste. Peut-être pour en approcher, disons, trois. On aurait par exemple les paiements. C'est vrai qu'on parle souvent de personnes qui n'ont pas de compte en banque et qui n'ont du coup pas de carte de crédit. Donc les paiements en ligne sont souvent très difficiles. Par contre, on voit rapidement des services ou des e-commerce qui permettent le paiement en cash à la livraison. Donc, il y aura forcément des solutions. Par exemple, aussi, comme vous le disiez, la livraison. C'est vrai que beaucoup de personnes n'ont même pas d'adresse. C'est un problème qu'on ne considère pas forcément en Europe, mais quand on n'a pas d'adresse, il faut trouver comment livrer.
Oui, c'est sûr.
Et donc, on trouve aussi des solutions où, là encore, on a des services qui apparaissent maintenant où on aura un point GPS sur une carte où le livreur peut suivre ce point et finalement, à la fin, il verra, en fait, le portail en photo sur son application, sur son téléphone, pour savoir où il livre. Et peut-être une dernière, aussi qu'en termes d'éducation même des clients. On appelle ça « customer education », c'est-à-dire de regarder si les clients eux-mêmes sont capables ou sont d'accord de commander en ligne. Et souvent, c'est une question de confiance aussi. On n'aura pas forcément confiance de commander en ligne. C'est, même nous, ici en Europe, actuellement, on n'a pas forcément envie de commander en ligne. C'est pareil sur place. Et donc, on voit un investissement massif aussi dans tout ce qui est marketing pour pousser les gens aussi à commander de plus en plus en ligne. Et encore une fois, on contourne les problèmes.
Alors, le 3 mars prochain, il y aura le gros Raoult, la Seed Stars Summit à Lausanne. Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'il y aura des représentants africains e-commerce ou d'autres sujets?
Alors oui, tout à fait. On aura des concurrents qui vont venir d'Afrique, on en a 14 qui viennent, on en a en tout 54 qui viennent des quatre coins du monde, donc encore une fois des industries très variées, on aura tout à fait du e-commerce, mais de l'agritech, la fintech ou encore des produits dans l'énergie, donc vraiment un grand mélange de beaucoup de startups, et au-delà de ça, on a aussi des intervenants qui viennent, des leaders d'opinion comme on dirait, qui viennent aussi expliquer comment eux ont monté leur startup. On a une personne qui a monté ou qui a fait partie de l'équipe pour monter la première, ce qu'on dit unicorn, donc l'entreprise qui a une valorisation d'1 milliard en Malaisie. On a une personne qui a construit en quelque sorte l'écosystème entrepreneurial à Lima, au Pérou. Et lui aussi a vendu sa boîte de logistique pour 42 millions de dollars à FedEx. Et finalement, on aura par exemple le CEO du groupe lastminute.com qui lui aussi vient partager son expérience. Et en quoi consiste le fait de grandir une start-up au-delà de plus de 30 pays à travers le monde?
Merci beaucoup, Grégory.
Merci, Grégory.
Merci.
Et on enchaîne tout de suite après notre World Tour avec notre French Tech Tour. Quelle place pour les fintechs françaises dans l'écosystème londonien? On voit ça, bien sûr, avec vous, Aurore.
Nous étions les 9 et 10 février à Finovate à Londres. Et pour en parler aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alain Clot, qui est président de France Fintech. Alain Clot, bonjour.
Bonjour. France Fintech, c'est une association qui regroupe la fintech française, c'est-à-dire les entreprises du secteur financier digital. En général, on crédite aux Français la capacité à développer des compétences fortes en finance et en technologie. Donc le mariage des deux, forcément, correspond à une zone de légitimité française. Elle est florissante en France, mais elle est aussi à l'étranger. Il y a une très grosse présence de la fintech française à Londres et c'est l'un des objets de cette venue aujourd'hui.
Du coup, il n'y a pas beaucoup de présentations de fintech françaises. Qu'est-ce que vous en pensez?
Disons-le tout de suite, l'un des intérêts d'un événement de cette nature, c'est le networking, c'est les rencontres informelles, c'est le couloir parce qu'il y a énormément de présentations, mais il y a aussi beaucoup de partenariats qui se nouent entre des investisseurs et des fintechs, entre les fintechs elles-mêmes, entre les acteurs dits traditionnels et les fintechs. Et de ce point de vue, il y a eu énormément d'échanges. On a d'ailleurs organisé hier soir un dîner réunissant une bonne partie de l'écosystème, et de nombreux contacts se sont noués.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a actuellement, alors là je parle, on est à Londres, mais en France, un réveil de la fintech au niveau des startups?
Aujourd'hui, 4 Français sur 10 se disent prêts à recourir au service des fintechs. Environ 15% l'ont déjà fait. Et ça touche à peu près tous les compartiments, depuis le crowdfunding jusqu'aux moyens de paiement, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce qui a beaucoup manqué à Paris et en France, c'était les financements. Et aujourd'hui, les investisseurs s'intéressent considérablement à ce métier. J'ajoute que du côté des financeurs, on trouve les établissements traditionnels eux-mêmes, soit par des partenariats, soit par des investissements, soit même par des rachats dans quelques cas. Le troisième élément, c'est que la sphère publique a beaucoup évolué. Premier plan, le régulateur qui est en train de faire des gros efforts pour s'adapter à ce nouveau marché, par de la discussion amont, par la prise en compte des aspects particuliers, par exemple sur les petits montants par rapport aux gros montants, pour une réglementation appliquée de manière un peu plus souple, par un accompagnement lors de la création des fintechs. Le deuxième élément dans la sphère publique, c'est l'État, qui lui aussi a mobilisé beaucoup de ressources. On a énormément d'échanges avec les cabinets ministériels, avec la French Tech, qui est vraiment une ressource d'accompagnement au développement international. Puis n'oublions pas, les Français ont des compétences techniques dans ce domaine, des écoles de formation, d'ingénieurs, de management, qui sont reconnues dans le monde entier. On trouve des Français dans les états-majors de tous les groupes digitaux du monde, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, tous les groupes financiers. Et donc, pour une bonne part, il s'agit de mobiliser des ressources plutôt que de créer un sujet.
Alors, quel est votre retour sur Finovate London? Est-ce que vous avez constaté qu'il y avait un domaine particulier qui est directement attribué à Londres?
Il y a un grand foisonnement ici comme à Paris. Il y a un effet de taille, évidemment, parce que Londres est parti plus tôt avec plus de moyens, plus de financement. Mais en gros, première remarque, tous les secteurs de l'activité financière aujourd'hui sont couverts des deux côtés. Il n'y a pas vraiment de trou dans la raquette, que ce soit les métiers de la gestion, de l'entreprise, du particulier, etc. Deuxièmement, si je devais dire mon sentiment sur ce qui en ce moment accélère un peu plus, je dirais les métiers de la gestion d'actifs, gestion privée et asset management. Je dirais les services aux entreprises, qui ont été longtemps un peu les parents pauvres des premières vagues de développement. Il y a une grande appétence des entreprises pour se financer, pour avoir de la tenue de compte, pour avoir du paiement. Et de ce point de vue, il y a beaucoup de créativité. Troisième sujet, c'est la donnée. La data, comme on dit, est le grand sujet de créativité. Couplé à l'intelligence artificielle, il permet aujourd'hui de faire des outils d'aide à la décision, d'analyse des risques, d'accompagnement commercial extrêmement profond. Et puis d'une manière générale, enfin, on est beaucoup plus sur le parcours et l'usage que sur la révolution technologique pour beaucoup des choses qu'on voit. Et c'est ça le vrai moteur.
Est-ce que vous sentez une différence de culture entre la France et puis Londres?
Franchement, non. Il y a de plus en plus de convergence. Il y a émergence d'abord d'un consommateur moderne que, pour ma part, j'appelle utilisateur. La vraie révolution actuelle dans les services financiers, c'est qu'après être passé du produit au client, on est en train de passer du client à l'utilisateur. Côté du mode de développement, l'entrepreneuriat est assez universel. Alors, j'aime quand même rappeler que, en dépit de quelques images, idées toutes faites, j'ai vu que la France, une nouvelle fois, se classe numéro 1 en Europe pour la création des entreprises. Il y a eu 550 000 de mémoire entreprises créées, ce qui met la France au premier rang, qui montre que l'entrepreneuriat est devenu une vraie dimension chez les diplômés, chez les classes d'âge diverses. Enfin, il y a la réaction de ce que j'appellerais les disruptés, les banques, les assurances. En France, on a un modèle universel de banque universelle. Donc forcément, il y avait des spécificités. Mais de ce point de vue, le dialogue a commencé, la concurrence aussi. Hein, le maître mot, c'est coopétition. Voilà. Et donc au total, il y a de moins en moins de différences en dehors de l'anecdote et de l'image d'Épinal. La France est très tech, elle doit le savoir. Elle est très fintech. Elle a un vrai potentiel et beaucoup des investisseurs que j'ai rencontrés et des acteurs de la technologie anglo-saxons, américains, asiatiques, etc., sont convaincus que ça va être un très grand champ de développement, de la disruption par la fintech. Et d'ailleurs, précisément en partie, parce que l'ajustement a été un peu plus tardif, et donc le rétablissement va être d'autant plus significatif.
Merci Alain Clos. Donc, je rappelle, est président de France FinTech. C'était le French Tech Tour.
Aurore Géraud, merci. On revient dans un instant pour la suite de cet atelier numérique avec la rédaction de Zeronet.com, bien sûr, et le crash test d'Antoine pour terminer. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Allez, direction la rédaction de Zeronet.com, comme chaque samedi, avec Éric Le Bourlou, le rédacteur en chef. Bonjour Éric.
Bonjour.
Alors Éric, un spécial Mobile World Congress, on ne peut pas y échapper.
Forcément.
Bien sûr, on en parlait tout à l'heure dans l'atelier, mais là on va véritablement, concrètement, rentrer dans quelques-unes des annonces et surtout survoler les tendances de ce salon de la téléphonie mobile qui est incontournable, qui s'est déroulé il y a quelques jours à Barcelone.
Exactement.
On va commencer par justement les tendances avec, malgré tout, des grands constructeurs coréens qui ont sorti coup sur coup leur smartphone flagship.
Hein, exactement. Bon, c'est un peu les stars. Hein. Chaque année au Mobile World Congress, la grande star du Mobile World Congress s'appelle Samsung. Et évidemment, c'était la plus grosse conférence de presse et la plus grosse annonce finalement de ce salon, c'était son nouveau téléphone haut de gamme. On en avait déjà parlé, mais bon, ça y est, il est officiel. C'est donc le Galaxy S7 hein, qu'on dit souvent que c'est le plus gros concurrent de l'iPhone. C'est effectivement le plus puissant, le plus performant en général des téléphones Android du marché
et qui a dépassé sur certains domaines l'Apple hein,
qui a même dépassé notamment sur la photo. On le disait récemment, c'est vrai que sur la photo en général maintenant on estime qu'il est supérieur à l'iPhone et il a aussi un écran magnifique. Voilà, donc là ce qui est intéressant, c'est qu'on a le Galaxy S7 ne change pas trop d'un point de vue design avec son prédécesseur, hein, logiquement le S6, mais en revanche il rattrape son retard sur des choses qui avaient été un peu regrettées sur la précédente version. Il est de nouveau étanche, par exemple, il a de nouveau un lecteur de carte SD, ce qui est bien pratique quand on a beaucoup de données ou beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Et puis il a aussi un nouvel appareil photo qui est étonnamment moins, on va dire, qui comporte moins de mégapixels, hein, qui n'est que de 12 mégapixels alors que la précédente version était de 16. Mais qui en revanche a de plus grands photosites et donc prendrait de meilleures photos, notamment en basse lumière.
Voilà.
Ça retestera.
Une conférence Samsung qui a été marquée par la présence quand même d'un gourou.
Exactement.
On peut le dire. C'est la rockstar des réseaux sociaux, Mark Zuckerberg.
Mark Zuckerberg qui a débarqué un petit peu en surprise lors de la conférence. Ouais. Ça a beaucoup animé cette conférence. D'autant que, voilà, lui était venu présenter quoi? Il vient effectivement présenter parce que il est le patron non seulement de Facebook mais d'Oculus, hein, l'Oculus Rift, la marque de casque de réalité virtuelle.
Oui, parce que Facebook a racheté Oculus Rift.
Exactement. C'est un partenaire de Samsung sur ses casques Gear VR. C'est Oculus Rift qui leur fournit la technologie de casque. Et il est venu effectivement pour parler un petit peu de cette réalité virtuelle qui tient beaucoup à cœur du patron de Facebook et qui pour lui va au-delà du jeu. Alors, ce qui était intéressant aussi durant cette conf, c'est la photo, cette fameuse photo qui a fait le tour du web, je crois, hein, où on voit en fait Mark Zuckerberg arriver,
avancer fièrement
dans une foule, devant une foule de participants à cette conférence qui étaient tous munis d'un casque de réalité virtuelle. Donc, on voyait Mark Zuckerberg, qui tout seul, sans le visage lumineux, face à des gens complètement aveuglés par la réalité virtuelle. Ça a fait beaucoup parler sur Internet. Par son côté complètement orwellien, hein, parce que c'est vrai que la photo est un petit peu choquante. Quand on n'était pas à la conférence de presse, on se rend pas bien compte.
C'est vrai.
Mais les gens étaient très contents.
Hors contexte, parce que là c'était une fête en fait, hein, cette conférence de presse, donc on regardait tous.
Exactement.
Parce que moi j'y étais, donc on voyait très bien que c'était une célébration des nouvelles technos comme à chaque fois, donc on avait notre masque et puis c'est sûr que vu de loin
c'est
quand même assez effrayant, on est d'accord,
un petit peu effrayant, mais en tout cas c'était effectivement une photo intéressante.
Voilà, la réalité virtuelle qui a été aussi l'une des grosses tendances, hein, de ce salon. Hein,
exactement. Alors effectivement, Eric. on a vu non seulement Samsung a beaucoup parlé de réalité virtuelle, mais son grand rival LG a aussi présenté son casque de réalité virtuelle. Alors c'est un petit peu différent du modèle de Samsung, parce qu'il est plus léger, il est plus petit, et en fait on n'intègre pas le téléphone dans le casque. C'est via un fil,
Donc il y a des écrans carrément dans voilà. dans la paire de lunettes.
Exactement.
Hein.
Bon, alors après, on peut voir quelle est la meilleure solution parce qu'on est moins immergé dans dans la réalité virtuelle que dans le cas du Samsung. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi HTC, hein, HTC qui a présenté largement son casque de réalité virtuelle qu'il fait avec le spécialiste du jeu, hein, Valve. Et c'est a priori, voilà, ce casque-là va sortir. Ça va être très cher, encore plus cher que l'Oculus Rift.
Mais c'est véritablement l'une des solutions les plus avancées.
Voilà,
hein.
C'est clairement le casque de réalité virtuelle le plus avancé. On verra bien si ça va marcher. Ça va sortir cette année. Mais voilà, c'était vraiment une des grosses tendances, en effet, de ce salon.
Voilà, on a parlé très brièvement d'LG. LG qui a profité de ce salon pour sortir son nouveau téléphone.
Exactement.
La guerre est lancée entre les deux Coréens,
oui,
qui ont, voilà, à quelques minutes d'intervalle, annoncé leur téléphone haut de gamme.
Exactement. Alors pour le coup, LG s'appelle le téléphone s'appelle le LG G5 et c'est le vrai concurrent du Galaxy S7. C'est aussi un téléphone très premium. Mais ce qui est intéressant avec LG, c'est qu'ils ont voulu faire quelque chose de différent. D'un petit peu innovant qu'on n'a pas vu ailleurs, en fait. Ils ont, je sais pas si vous voyez ce que c'est que le projet ARA, ce projet de téléphone modulaire que Google tente de mettre en place depuis longtemps. C'est un petit peu.
Ça n'a pas l'air très au point, hein, encore.
Pour l'instant, ça reste un petit peu compliqué. mais LG, en fait, a fait un petit projet ARA très light, mais son téléphone est modulaire, c'est-à-dire que vous pouvez interchanger la partie basse du téléphone pour avoir des fonctions spécifiques. Par exemple, ils ont présenté un module photo qui vous permet d'améliorer le grip. Enfin, c'est un grip pour votre mobile. Mm-hmm. Vous interchangez le bas de l'appareil et vous avez des boutons d'accès plus rapides à l'appareil photo. Ça vous permet d'avoir une meilleure prise en main, etc.
Pour zoomer,
notamment. Et vous avez aussi un autre module qui vous permet d'avoir un DAC, hein, quelque chose pour avoir de la musique en version iRes. Avec, si vous êtes un fan de musique, fait avec Bang & Olufsen, ce qui vous permet d'avoir de la qualité audio extraordinaire dans sur votre smartphone.
Et puis de manière plus simple aussi, ce petit module interchangeable permet de rapidement changer la batterie.
Exactement, vous pouvez aussi changer la batterie, ce qui n'est pas le cas de nombreux smartphones, et ça c'est plutôt pas mal.
En revanche, il n'est pas étanche et on ne peut pas augmenter la mémoire, c'est un peu embêtant.
Ouais,
voilà.
Exactement, mais en tout cas c'est le téléphone qui est en frontal avec le Galaxy S7, évidemment dans le monde Android, puisqu'il est lui aussi très performant.
On revient très vite sur la réalité virtuelle. C'est vrai que ces deux constructeurs en ont profité aussi pour présenter des caméras 360.
Exactement.
Parce que bien sûr, c'est bien beau d'avoir des masques, mais il faut pouvoir capter ces moments-là. Et que ce soit LG ou Samsung, mise énormément sur cette nouvelle manière de photographier notre environnement en 360.
Exactement, parce que bon, on pense beaucoup à la réalité virtuelle pour le jeu, mais en fait, les vendeurs de téléphones mobiles, ils pensent aussi pour partager des contenus, évidemment. Donc, on sait que YouTube est déjà compatible 360 degrés. Vous pouvez regarder des vidéos 360 degrés sur Facebook. Et voilà, il manquait ces matériels. Donc maintenant, LG et Samsung ont leur caméra 360 degrés pour que vous puissiez faire ce que vous voulez avec vos masques ensuite.
Voilà, ces téléphones sortent très bientôt. Hein. Le Galaxy S7 est prévu pour début mars.
Ouais. Tout à fait. Et puis, pareil au mois d'avril, je crois, pour le
LG G5. On est aux alentours de 700 euros pour le G5 et le S7 et 800 euros pour le S7 Edge qui a un écran un petit peu plus grand. Autre tendance de ce salon, c'était alors quelque chose qui était tout le monde parlait de ça, mais c'est bizarre parce que c'est presque un fantôme finalement. C'est la 5G.
Exactement.
C'est le futur réseau de téléphonie mobile.
Ouais, on l'attend. Il va falloir encore attendre un peu. Il va falloir attendre à peu près 2020. On parle de 2020. Les standards sont pas encore complètement définis, donc effectivement tout le monde en parle à ce salon. Évidemment, c'est normal puisque c'est là que se nouent les partenariats entre fabricants, opérateurs, etc. Et il faut bien donc préparer cette prochaine évolution de la téléphonie mobile que sera la 5G. Donc on en a entendu beaucoup parler, il n'y avait pas d'annonce vraiment forte, à part peut-être celle d'Intel qui a présenté en fait toute une série de partenariats avec des opérateurs partout dans le monde pour avancer sur la 5G, pour avancer sur les standards de la 5G. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était incontournable au Mobile World Congress. Partout, il y avait Qualcomm, il y avait Intel qui faisait aussi des démonstrations de ce que pourrait apporter la 5G, évidemment, puisque avec la 5G, vous pourrez très facilement, on peut imaginer, streamer des films en 4K sur le réseau mobile, ce genre d'usage qui pour l'instant évidemment est impossible.
Oui, et puis ça fait rêver parce que la 5G permettrait de ne plus avoir visiblement de zones blanches en termes de couverture. Exactement. Réseau. On pourrait couvrir un pays très facilement avec du très très haut débit, pouvoir avoir jusqu'à 50 mégabits dans le train en TGV à 300 km/h. Enfin voilà, qui permettrait aussi de connecter des objets, hein, c'est ce qu'on appelle le machine to machine, et qui pourrait aussi permettre de télécommander par exemple des véhicules dans des zones à risque. Imaginez par exemple une centrale nucléaire qui serait, accidentée, etc. Et bien on pourrait envoyer des véhicules et les télécommander d'une manière très très précise, puisque le temps de latence de la 5G est quasi nul, même sur des centaines de kilomètres.
Oui, c'est ça aussi qui est important, c'est effectivement le temps de latence qui est effectivement beaucoup moins important que ce qu'on a sur la 4G ou la 3G.
Voilà, mais bon, c'est pas pour tout de suite, alors que la 4G n'est pas encore complètement généralisée,
non.
Donc il faut pas trop s'exciter à ce sujet. Dernière chose, autre tendance, Eric, c'est le flop des montres connectées. On s'en souvient l'année dernière.
Il n'y avait que ça.
Voilà, on parlait que de ça, que des montres connectées.
Il n'y avait que ça, ouais, effectivement.
Des objets connectés.
Des objets connectés.
Aussi, les wearables, comme on l'appelle.
Et cette année, effectivement, cette année, on en a très, très peu vu. Alors, des montres connectées, en gros, on va dire qu'on a vu, deux nouveaux produits intéressants. Alors que l'année dernière, c'était presque sur tous les stands des constructeurs.
Oui.
Et pareil, des objets connectés de manière générale, c'était pas vraiment une tendance du Mobileur Congress. Alors pourquoi, on peut se demander. Ce qui est sûr, c'est que les montres connectées, ce n'est pas vraiment une vraie réussite, hein, pour les fabricants. Même pour Apple, hein, Apple a lancé la sienne l'année dernière, mais voilà, ça a marché. Ça n'a pas fait un superbe carton. Il n'y a pas de chiffres précis.
Mais ouais, Apple est toujours très silencieux, hein, concernant les chiffres de l'Apple Watch.
Il n'y a pas de chiffres précis. Mais on sait en revanche que les montres connectées sous Android Wear ne sont pas bien vendues. Et effectivement, cette année, les constructeurs se sont peut-être dit que fallait peut-être rester calme sur ce nouveau marché qui, pour l'instant, en vrai, n'existe pas vraiment, en fait, tout simplement.
Alors, est-ce qu'il faut attendre le progrès technologique pour avoir peut-être plus d'autonomie, pour avoir peut-être plus de fonctionnalités, pour que ce soit peut-être plus réactif, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on reproche à ces montres-là, c'est que parfois c'est un peu lent.
C'est un peu lent, et puis surtout, il n'y a pas d'autonomie, mais comme vous le dites, c'est ça le problème, c'est que tant qu'on n'aura pas un vrai progrès sur les batteries, ça va être compliqué.
Voilà, les tendances de ce Mobile World Congress édition 2016. Merci beaucoup Eric Lebourdou. On se retrouve la semaine prochaine. Avec Eric, la semaine prochaine, on vous proposera un dossier spécial sur la réalité augmentée, sur la vidéo à 360 degrés, puisqu'on voit que là, pas mal de technologies se profilent avec des concurrents bien distincts. Ouais. Est-ce que c'est l'avenir finalement de la vidéo, la vidéo 360? On en parlera la semaine prochaine. Merci Eric.
Merci.
Et on revient dans un instant pour la suite et la fin de cet atelier avec le crash test d'Antoine. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Dans un instant, le crash test d'Antoine, bien sûr, pour terminer cet atelier numérique sur BFM Business. On va parler d'agriculture, mais auparavant, allez, dernier petit retour du côté du Mobile World Congress avec l'allégorie de Barcelone et Marc Zuckerberg qui était, vous le savez, donc au Mobile World Congress, et on en parle avec vous, Lila Megraoua.
C'est une photo qui a fait le tour du monde et des réseaux sociaux cette semaine. Elle montre le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, s'avancer fièrement vers une scène. Autour, un parterre de spectateurs ne le voit pas, aveuglé par un casque de réalité virtuelle. L'homme qui avait des milliards d'amis peut déambuler là, sans émeute. L'image intrigue, dérange, peut même effrayer. Je ne sais pas vous, mais cette scène m'évoque quelque peu le mythe de la caverne de Platon. Mais ça, c'est encore autre chose. Cette scène s'est déroulée lors de la conférence Samsung au tout début du Mobile World Congress, grand raout annuel et mondial autour du mobile, qui se déroule tous les ans à Barcelone. L'effet de surprise atteindra un point d'orgue. Zuckerberg arrivé sur scène, les spectateurs sont invités à retirer leurs casques et découvrent avec ravissement sa présence. Ce sera alors à qui dégainera son smartphone le plus vite pour prendre son cliché de Zucky. Si les spectateurs sont ravis, ce sera une autre paire de manches sur le web. Posté par Zuckerberg sur son mur Facebook, le cliché éveille l'inquiétude des internautes. Romy Kunzmann, un de ces fameux internautes, le L, et questionne Marc Est-ce que ça ne te semble pas bizarre d'être le seul à déambuler avec tes vrais yeux pendant que tous autour de toi ont l'air de zombies plongés dans la matrice ? Ce commentaire aura été liké près de 15 000 fois. Un autre évoque les envolées lyriques de Rilke dans « Pour écrire un seul vers ». Vous savez, le « Pour écrire un seul vers », il faut avoir vu beaucoup de villes, d'hommes et de choses. Il faut connaître les animaux. Il faut sentir comment volent les oiseaux et savoir quels mouvements font les petites fleurs en s'ouvrant le matin. Eh bien, cet internaute écrit, lui, « Je ne veux pas vivre dans un tel monde. Je veux pouvoir toucher une fleur qui éclot et la sentir. Je veux pouvoir sentir la brise sur mon visage, sentir le fumet d'un repas qui se prépare. Je veux me sentir connecté de façon humaine. Je ne veux pas être assis dans un costume gris pendant qu'on m'explique ce qui est cool dans un hall à air conditionné illuminé de LED où des appareils électroniques enregistrent chaque mouvement de mes yeux. Être humain, c'est être libre. » Mais alors pourquoi cette photo fait si peur ? La réponse est peut-être dans un autre commentaire de Twitos. Cette photo serait-elle une allégorie de notre futur ? Les gens dans une réalité virtuelle et nos leaders qui se promènent à côté de nous. Il semblerait bien que le film Orange Mécanique de Kubrick a bien fait son nid dans nos esprits. Pourtant, il y a bel et bien une explication à cette entrée théâtrale de Zuckerberg. Et c'est Jérôme Colombin de France Info et 01net TV qui l'explique très bien. La scène était au centre de la salle avec du public tout autour. Il fallait donc trouver un moyen de faire entrer discrètement Mark Zuckerberg dans la salle. D'où le casque virtuel pour tous. Voilà l'explication de la fameuse allégorie de Barcelone.
Merci Lila. Place maintenant pour terminer à notre crash test. Antoine, on quitte Barcelone pour venir ici à Paris, Porte de Versailles, à l'occasion évidemment du Salon de l'Agriculture. Et on va parler d'un agronome.
Oui, on va parler de quelqu'un qui s'appelle Michel Griffon. Oui. Alors d'abord, il faut quand même dire que en ce moment, il y a une crise agricole, on en parle, elle est très dure, particulièrement en France. Mais on voit aussi de plus en plus apparaître le phénomène des agtech. On voit de plus en plus que la technologie va permettre de jouer un rôle dans l'agriculture, non pas pour aller contre la nature, mais pour aider, au contraire, à retrouver et à accompagner la nature. Hein. Donc on est dans une mutation technologique, oui, qui est une mutation finalement très proche
et très vertueuse.
Très proche de la révolution des high-tech, mais bien entendu, comme la révolution elle est en train de se faire, pour l'instant on n'en voit pas encore complètement les conséquences, on n'en voit pas les fruits. Et donc ce qui est intéressant, c'est de regarder qui réfléchit, qui est en train de penser la manière dont on va percevoir les fruits. Alors des livres, il en sort. Par exemple, vous avez un livre de Maximilien Rouer et Hubert Garot qui s'appelle « Les agriculteurs à la reconquête du monde ». Pourquoi le monde agricole va survivre et même nous sauver. Et quand on lit ce livre, qui est très intéressant et plein de solutions optimistes, on se rend compte qu'il s'appuie en fait sur des réflexions qui sont en train de devenir réalité, mais qui sont des réflexions qui ont commencé il y a assez longtemps dans la tête de penseurs connaissant très bien l'agriculture et très bien l'économie, et qui se sont dit « Ah non, mais là, c'est pas possible, on va dans le mur ». Et pourtant, il va falloir nourrir les gens, parce que vous voyez, par exemple, le bio, c'est formidable, mais en France, vous pouvez nourrir actuellement 3% de la population avec le bio.
Oui, parce que l'agriculture n'est pas assez importante.
N'est pas assez importante, et de toute façon, elle a des modes de production.
La production n'est pas assez forte.
Qui ne sont pas assez forts. Donc, qu'est-ce que vous faites avec les 97 autres ? Est-ce que vous continuez à les nourrir en polluant, en faisant des choses qui sont pas satisfaisantes ? La réponse, ce serait bien que cette réponse soit non. Et donc, vous avez, par exemple, un agronome et économiste qui s'appelle Michel Griffon et qui, depuis des années, écrit pense, réfléchit à cette nouvelle révolution de l'agriculture, à cette nouvelle agriculture que lui appelle agriculture écologiquement intensive. Alors évidemment, le intensif, c'est pas très joli, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est une agriculture pour nourrir tout le monde, mais qui est
majoritairement
quand même,
écologique.
Mais qui est majoritairement écologique. Alors, dans un site qui s'appelle Futura Environnement, Michel Griffon a, en quelque sorte, fait une espèce de dédicace. C'est une espèce de profession de foi qui résume très bien sa pensée et que je vais donc vous lire. Et donc il dit « La Terre s'apprête à accueillir 9 milliards d'habitants en 2050. Mais au fait, s'y prépare-t-elle ? On peut en douter, alors que plus de 600 millions de personnes vivent de l'agriculture sans que cette activité leur permette de produire pour eux-mêmes une alimentation suffisante. C'est-à-dire la majorité des agriculteurs n'arrivent pas à produire quelque chose qui leur permet à eux-mêmes de vivre correctement.
En fait, ils n'arrivent pas à s'autosuffire,
voilà.
En quelque sorte.
Que l'agriculture contribue à l'effet de serre, au changement climatique, à la perte de certaines espèces animales et végétales, et bien sûr à la pollution. Un des plus grands défis à la science d'aujourd'hui est de faire en sorte que les sociétés puissent subvenir à leurs besoins tout en ménageant la biosphère et que les pauvres de cette terre, ce sont surtout des paysans, puissent sortir de leurs conditions. Alors, Michel Griffon, il a commencé à faire parler de lui, il a fait parler de lui il y a longtemps pour les initiés, mais dans un public relativement large, il a commencé à faire parler de lui avec un livre paru en 2006 qui s'appelait « Nourrir la planète ». Et c'était très intéressant parce que il arrivait avec cette problématique de nourrir la planète. Il faut savoir que vous avez un des pères fondateurs de l'écologie qui s'appelle René Dumont, qui dans les années 70 avait fait des courbes dans lesquelles il expliquait que vers l'an 2000, il y aurait la famine. Qu'en fait, on était en train d'épuiser les ressources dans de telles conditions qu'on serait tous affamés en 2000.
Bon, alors, heureusement, il s'est un petit peu trompé sur ses prédictions.
Heureusement, cette prédiction ne s'est pas réalisée. Mais, rappelle en même temps Griffon, si elle ne s'est pas réalisée, c'est en grande partie parce qu'il y a eu ce qu'on a appelé une révolution verte, qui a permis une augmentation spectaculaire des rendements des cultures dans les pays tropicaux, en Asie et un petit peu en Amérique latine et en Afrique. Donc vous avez eu, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà eu des grands mouvements et des grandes transformations de l'agriculture qui font qu'aujourd'hui, on n'est pas en état de famine.
Voilà, c'est ça.
C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ces mouvements...
C'est-à-dire qu'on a réagi à temps, on va dire.
Exactement. Mmh. Donc aujourd'hui, on a un nouveau défi, qui est que la population mondiale augmentera d'au moins 30% d'ici à 2050. C'est ce qu'expliquait Michel Griffon dans un article que vous pouvez trouver sur le site des Échos. Donc Griffon disait, voilà, les démographes prévoit que la population va augmenter de 30% d'ici à 2050, mais on ne peut pas étendre à l'infini la surface agricole. Il va donc bien falloir trouver des solutions pour que les rendements soient meilleurs et en même temps pour que les rendements soient meilleurs alors même que on est dans un monde qui est évidemment plus sensible à la protection de l'environnement, à la santé, au bien-être animal, etc. Mmh. Donc c'est compliqué. Et donc la voie de Michel Griffon, cette fameuse agriculture écologiquement intensive, c'est ce qui conduit à essayer d'optimiser la nature sans la dénaturer. Par exemple, il considère qu'on est déjà dans l'ère post-OGM. C'est-à-dire, il dit, il y a des méthodes qui sont beaucoup plus douces, qui sont beaucoup plus naturelles, qui permettent d'aider les plantes à s'adapter au changement climatique, à s'adapter
sans être obligé de les modifier génétiquement. Quoi.
Exactement. Il dit il y a des méthodes qui permettent non pas de modifier la nature, mais de l'accompagner en lui donnant des petits coups de pouce. Mmh. Bon, c'est voilà. Il y a aussi par exemple, au lieu d'utiliser systématiquement des pesticides pour détruire par exemple les prédateurs, il y a des manières de combiner des cultures, d'utiliser le sol, qui permettent, on le sait maintenant aujourd'hui, grâce grâce à la science qui permettent d'obtenir d'aussi bons résultats, évidemment sans le moindre danger pour l'homme et pour la nature, que si on utilisait des pesticides et autres. Et puis bien entendu il y a toute la technologie, les objets connectés, mais ça c'était un des sujets de notre émission d'aujourd'hui.
On en parlait tout à l'heure,
c'est très important, les drones, les robots désherbants, etc. Sûr.
Et les objets connectés aussi qui arrivent aussi dans l'agriculture. Merci beaucoup Antoine pour ce crash test. Et voilà, cet atelier est terminé bien évidemment. On se retrouve le week-end prochain sur BFM Business, 16h-18h, votre rendez-vous dédié aux nouvelles technologies. D'ici là, portez-vous bien. Et puis si vous avez raté un bout de ce rendez-vous, n'hésitez pas à nous retrouver en podcast sur le site de BFM Business, mais aussi sur www.atelier.net. À très vite.